بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد nous entamons aujourd'hui en demandant l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala la lecture du hadith numéro 9 des 40 hadiths de Nawawi ainsi que du commentaire qu'en a fait le noble Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad حفظه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه rapporte j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ce que je vous ai interdit éloignez-vous-en et ce que je vous ai ordonné Accomplissez-en ce que vous pouvez, car ce qui a mené les nations qui vous ont précédé à leur perte n'est autre que l'excès de questions inutiles et d'objections à leurs prophètes. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. En commentaire, le Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Hafizahullah, dit premièrement, les deux Cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, sont unanimes dans le référencement de ce hadith, qui est rapporté sous cette formulation par Muslim dans le Livre des Vertus. Il mentionna le contexte de ce hadith dans le livre du pèlerinage, d'après Abu Huraira qui dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous adressa un sermon et dit « Ô gens, Allah vous a imposé le pèlerinage, alors accomplissez-le. » Un homme dit « Chaque année au messager d'Allah, il se tue jusqu'à ce que l'homme ne répète sa question trois fois. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Si j'avais dit oui, cela aurait été obligatoire et vous n'auriez pas pu. » Puis il dit « Contentez-vous de ce que je vous ai transmis, car ce qui a mené les nations qui vous ont précédé à leur perte n'est autre que l'excès de questions inutiles et d'objections à leurs prophètes. Si je vous ordonne une chose, accomplissez-en ce que vous pouvez. Et si je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. »
Si je vous interdis ici, qu'on vient d'enlever, de supprimer le T qui est en trop. Dans ce premier passage de son commentaire, le Cheikh Abdel Mohsin, Hafizahullah Ta'ala, a fait mention des références de ce hadith de manière résumée en disant qu'il a été recueilli par Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil de hadiths authentiques respectifs. Et il a attiré l'attention du lecteur vers le fait que la formulation mentionnée par Al-Nawawi dans ces 40 hadiths est celle de Muslim dans le livre des vertus. L'imam Muslim rahimahullah a recueilli ce hadith dans plusieurs endroits de son livre. Et c'est le cas dans le livre du pèlerinage. Et on trouve dans ce livre-là qu'il a fait mention de ce hadith en faisant mention également du contexte dans lequel il a été prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là une science à part entière. Une science parmi les sciences du hadith, à savoir le fait de chercher à connaître le contexte des hadiths. Et c'est là une science très importante qui permet de mieux comprendre le hadith, d'une part, et qui permet d'en tirer plus d'enseignements. Et c'est le cas ici concernant le hadith d'Abu Huraira. Le fait d'en connaître le contexte nous permet d'en tirer plus d'enseignements. Donc Abu Huraira a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous adressa un sermon et dit « Ô gens, Allah vous a imposé le pèlerinage, alors accomplissez-le. » Un homme dit « Chaque année au messager d'Allah ?» C'est-à-dire, il a posé la question « Est-ce que cela nous incombe chaque année ? Est-ce que cela nous est obligatoire chaque année ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue jusqu'à ce que l'homme ne répète sa question trois fois. Et lorsque l'homme a vu que le prophète alayhi salat wa salam ne lui répondait pas, il a réitéré sa question. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, si j'avais dit oui, cela aurait été obligatoire. Et vous n'auriez pas pu, c'est-à-dire vous n'auriez pas pu accomplir le pèlerinage chaque année. Puis il dit, contentez-vous de ce que je vous ai transmis. Ou de manière plus littérale, laissez-moi tant que je ne vous sollicite pas. C'est-à-dire, ne me posez pas de questions sur des choses tant que moi, je ne les ai pas abordées. Contentez-vous de ce que je vous ai transmis, car ce qui a mené les nations qui vous ont précédé à leur perte n'est autre que l'excès de questions inutiles et d'objections à leurs prophètes. D'objection à leur prophète, c'est-à-dire le fait de s'être opposé et d'avoir émis des objections au commandement de leur prophète. Si je vous ordonne une chose, accomplissez-en ce que vous pouvez. Et si je vous interdis une chose, abstenez-vous-en.
Deuxièmement, concernant sa parole, ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-en ce que vous pouvez. Cette phrase contient un ordre et une interdiction. Pour ce qui relève de ce que le prophète nous a ordonné de faire, il l'a corrélé à la capacité de chacun. Le champ d'application des obligations est donc restreint, de même qu'il est conditionné par la capacité à les mettre en pratique.
Il l'a corrélé à la capacité de chacun, c'est-à-dire il l'a lié. Pour ce qui relève de ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a ordonné de faire, il l'a corrélé, c'est-à-dire il l'a lié à la capacité de chacun, étant donné qu'il a dit, si je vous ordonne une chose, accomplissez-en ce que vous pouvez.
Le champ d'application des obligations est donc restreint, de même qu'il est conditionné par la capacité à les mettre en pratique. Contrairement aux interdictions, puisqu'en disant « éloignez-vous-en », la portée de l'interdiction est générale. La raison en est que les interdictions sont des choses qu'on nous demande de délaisser, ce qui est tout à fait possible, puisque n'importe qui peut ne pas faire une chose. En revanche, ce qui nous est ordonné est restreint à la capacité de chacun à l'accomplir, étant donné que c'est un acte qu'on nous demande. On peut être en mesure de le faire, comme on peut ne pas l'être. En somme, qui reçoit un ordre doit l'accomplir en fonction de sa capacité. Par exemple, lorsqu'on a interdit de consommer de l'alcool, celui qui reçoit cette interdiction peut s'abstenir d'en boire. A l'inverse, la prière est commandée, et l'individu l'accomplit selon sa capacité, debout, sinon assis, ou encore allongé. Un exemple concret éclairant cela, si l'on dit à quelqu'un « n'entre pas par cette porte », il peut ne pas entrer car c'est un délaissement. Mais si on lui dit « porte ce rocher », il peut en être capable comme il peut en être incapable car c'est un acte à réaliser.
Naam, ici dans ce second passage, le Cheikh Abdel Mohsin, hafidhahullah, a expliqué la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contenue dans ce hadith lorsqu'il dit « ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en ». Et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-en ce que vous pouvez. Il faut savoir que les ordres peuvent impliquer deux choses. Ils peuvent impliquer ce qui est obligatoire, et c'est là la base, comme ils peuvent impliquer ce qui est recommandé. De même que les interdits émanant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam peuvent impliquer deux choses. Ce qui est strictement interdit, haram, et ce qui est détestable, réprouvé, makruh. Les pieux prédécesseurs de cette communauté et à leur tête les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils prenaient connaissance d'un ordre venant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils s'empressaient de l'accomplir, sans chercher à savoir est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que ça ne l'est pas. Et quand ils prenaient connaissance d'un interdit, ils s'empressaient de s'en écarter. Sans chercher à savoir est-ce que c'est quelque chose qui est strictement interdit, haram, ou est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement détestable et réprouvé, qui serait makrouh. Et c'est de cette manière-là que nous devons appréhender les ordres et les interdictions. Tout ce qui relève de l'ordre venant d'Allah tabaraka wa ta'ala ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam, nous devons nous empresser de les accomplir. Car il se trouve dans cela la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et cela permet, par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'obtenir son agrément, azza wa jal, et d'obtenir par là même sa récompense dans l'au-delà. Et tout ce qui relève des interdits, on se doit de s'en écarter. On se doit de s'en écarter. Sans pour autant chercher à savoir est-ce que c'est strictement interdit, auquel cas bon, ben, on ne le fait pas, ou est-ce que c'est uniquement détestable, auquel cas on va quand même le faire car ça n'arrive pas au stade de ce qui est strictement interdit. Ça donc c'est dans un premier temps un point qu'il est important de soulever. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à savoir ce qui est obligatoire de ce qui est recommandé. Et qu'on ne doit pas chercher à distinguer ce qui est strictement interdit de ce qui est uniquement détestable. Car ça reste quelque chose de très important. Ça reste quelque chose de très important. Mais là où je veux en arriver, c'est que on doit avant tout s'empresser d'accomplir autant que faire se peut ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala et son messager alayhi salatu wa salam nous a ordonné, et qu'on doit s'empresser de délaisser ce qu'ils nous ont interdit, ce qu'ils ont réprouvé. Naam. Ici, le Cheikh Abdel Mohsin, hafidhahullah, il a expliqué un point important lorsqu'il a dit, pour ce qu'il relève de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire, il l'a corrélé, c'est-à-dire il l'a lié à la capacité de chacun. Et ensuite, il a expliqué cela et a simplifié la compréhension de ce point. Il a cité des exemples, notamment le fait que si on te dit n'entre pas par, et si on te dit plutôt porte ce rocher, la personne peut être capable de faire cette chose comme elle peut ne pas en être capable, étant donné que c'est un acte. Et dans ce qui relève du domaine des actes, il est possible qu'on en ait la capacité, comme il est possible que l'on n'en ait pas la capacité. Si on te dit porte ce rocher, il est possible que tu puisses le faire, comme il est possible que tu ne puisses pas le faire. Et le Shir, hafidhahullah ta'ala, a également expliqué que cette corrélation n'a pas été faite dans le domaine de l'interdit. Étant donné que là, c'est un délaissement. Et que le délaissement, eh bien, c'est quelque chose que nous sommes forcément capable de faire. Nous sommes forcément capables de délaisser ce choix. Si on te dit n'entre pas par cette porte, tu as forcément la capacité de ne pas y entrer. C'est pour cela que, en ce qui concerne les ordres et les commandements, ils sont liés à la capacité. Quant à ceux qui relèvent des interdits, et cela relève donc du délaissement, ce n'est pas lié à la capacité. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je vous interdis, éloignez-vous-en. » Et il n'a pas dit « Éloignez-vous-en si vous pouvez. » Et il a dit « Ce que je vous ai ordonné, accomplissez-en ce que vous pouvez. » Et ensuite, nous allons voir dans le point suivant une précision importante concernant justement le délaissement des interdits.
Troisièmement, le délaissement des interdits reste général. Il n'en est exempt que ce qui est d'une nécessité impérieuse, comme le fait de consommer une bête morte non égorgée.
Non égorgée, ou plutôt non sacrifiée, on va dire.
Non sacrifiée, pour préserver la vie, ou de boire un peu d'alcool pour éviter l'étouffement.
Na'am. Donc dans ce point, le Cheikh, hafidhahullah, a apporté une précision importante concernant le délassement des interdits. Ce délassement-là reste général, étant donné que le prophète alayhi salatu wassalam a dit ma nahaytukum anhu fajtanibuh, ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Et il n'a donc pas lié cela à la capacité. Le shir de continue en disant « Et n'en est exempt que ce qui est d'une nécessité impérieuse. » C'est-à-dire ce qui relève de ce que l'on appelle « ad-daroura ». « Ad-daroura » c'est la capacité, la nécessité. « Ad-daroura » c'est la nécessité. « Ad-daroura » c'est le cas de force majeure. À titre d'exemple, le shir a mentionné comme le fait de consommer une bête morte non sacrifiée. On sait que le fait de consommer une bête morte non sacrifié, est interdit dans la religion. Na'am. Mais dans ce cas-là, c'est pour préserver la vie. Admettons que la personne, elle soit sur le point de mourir de faim. Elle se retrouve dans un cas de force majeure. À ce moment-là, permission lui est faite de consommer de la bête morte non sacrifiée. Autre exemple, boire un peu d'alcool pour éviter l'étouffement. Une personne, elle est en train de s'étouffer à tel point qu'elle risque de mourir. Elle se retrouve donc dans un cas de force majeure, dans une situation de nécessité. À ce moment-là, donc, elle a permission de boire un peu d'alcool. Et cette précision-là, justement, elle va nous amener à un point très important concernant ce sujet-là. Il faut savoir que ce cas énoncer le shir ici, ça renvoie à une des grandes règles de la charia, à savoir le fait que les cas de force majeure, les situations de nécessité impérieuse, rendent permis ce qui, à la base, est interdit. C'est une règle, une des grandes règles de la charia. Les cas de force majeure, les cas de nécessité impérieuse, rendent permis ce qui, à la base, est interdit. Et il est peut-être opportun ici d'ouvrir une parenthèse, étant donné que bon nombre de personnes font une très mauvaise utilisation de cette règle-là. Et ils se servent de cette règle-là pour rendre licite, selon eux, ce qui, en vérité, ne l'est pas. Donc il est important de savoir qu'il y a des conditions qui doivent être réunies pour qu'une situation soit considérée comme étant un cas de force majeure, rendant ainsi permis le fait d'avoir recours à ce qui est interdit. La première de ces conditions-là, c'est que le cas de force majeure Naam. Doit être considéré au regard de la religion et pas seulement selon l'appréciation personnelle de la personne. Le cas de force majeure doit être considéré au regard de la religion et pas seulement selon l'appréciation de la personne. Et ça, c'est un point très important, car combien de personnes considèrent être dans une situation de daroura, de nécessité impérieuse, dans un cas de force majeure, et en vérité, c'est uniquement selon leur propre conception de la chose. Et dans la religion, ce n'est pas considéré comme tel. Combien de gens en arrive à dire qu'ils sont dans un cas de force majeure afin de se rendre licite le fait d'avoir recours à l'usure, à riba. Et quand tu regardes quelle est la nécessité impérieuse selon eux, c'est le fait qu'il est préférable d'être propriétaire de sa maison plutôt que de louer. C'est-à-dire la personne, elle a la possibilité de louer. Naam. Mais elle dit que pour elle, c'est une nécessité d'acheter. Donc, pour elle, elle est dans un cas de force majeure, dans une situation de nécessité impérieuse, Alors qu'en vérité, au regard de la religion, pas du tout. Étant donné qu'elle n'est pas en train de risquer sa vie si elle continue à louer son logement pendant un certain temps. La deuxième des conditions, c'est que ce cas de force majeure, cette nécessité impérieuse soit présente et non pas à venir. Elle soit présente ou imminente et non pas à venir. Admettons que quelqu'un, il prévoit d'entamer un voyage, une traversée du désert, par exemple. Et avant d'entamer son voyage, alors qu'il est encore chez lui, à l'aise, il boit un peu d'alcool. Et tu lui dis, mon frère, crée Allah. Pourquoi tu fais ça? C'est interdit, tu le sais. Et il te répond, parce que je risque de mourir de soif lorsque je vais être dans mon voyage. Non. Ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce que la nécessité impérieuse doit être présente ou imminente et non pas à venir bien plus tard. Troisième condition, que la chose interdite en question ne soit pas pire que la nécessité impérieuse dans laquelle la personne se trouve. Que la chose interdite en question ne soit pas pire que la nécessité impérieuse dans laquelle la personne se trouve. Quatrième condition, qu'il n'y ait pas d'autre alternative que le fait d'avoir recours à l'interdit. Si une personne, par exemple, se retrouve sur le point de mourir de soif ou sur le point de s'étouffer et que devant elle, elle a un verre de vin et un verre de jus d'orange, elle n'a pas le droit d'avoir recours à l'interdit alors qu'elle a la possibilité d'avoir recours à ce qui est permis, à savoir le verre de jus d'orange. Cinquième condition, ne pas dépasser les limites de la nécessité. Ne pas dépasser les limites de la nécessité. Et cela nous renvoie à une autre règle, parmi les règles de la charia, qui vient restreindre la portée de la règle que je vous ai mentionnée précédemment, à savoir le fait que les cas de force majeure rendent permis ce qui, à la base, est interdit. Cette règle-là, elle énonce que les cas de force majeure doivent être estimés à leur juste valeur. Si pour éviter l'étouffement, qui pourrait être un étouffement mortel, tu n'as pas d'autre recours qu'avoir recours à l'interdit, et qu'il te suffit de boire une gorgée, sache que la deuxième gorgée sera interdite. Sache que la deuxième gorgée sera interdite. Donc il ne faut pas dépasser les limites de la nécessité. Et ça d'ailleurs dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est très utile, notamment concernant les assurances. Je parle de ça car ça concerne bon nombre de personnes. Si une personne se retrouve dans une situation où elle n'a pas d'autre recours que de souscrire à une assurance pour sa voiture par exemple, il faut savoir qu'elle doit se contenter du minimum et que le fait de rajouter au minimum obligatoire aux yeux de la loi en vigueur dans le pays est strictement interdit. Sixième condition, que cet interdit n'engendre pas un préjudice équivalent à autrui. Que cet interdit n'engendre pas un préjudice équivalent à autrui. Auquel cas, la personne, elle ne ferait que déplacer le problème de sa personne à autrui. Ce qui est interdit et qui ne rend pas permis ce qui, à la base, est interdit. Et septième condition, que le recours à l'interdit en question permettent de mettre un terme au cas de force majeure, au cas de nécessité, à la situation de nécessité impérieuse. Car si ce n'est pas le cas, ça reviendrait à avoir eu recours à ce qui est interdit de manière inutile et ça resterait quelque chose d'interdit. Donc je vous les récapitule brièvement. Premièrement, qu'elles soient un cas de force majeure au regard de la religion, pas seulement selon l'appréciation personnelle de la personne, de l'individu. Deuxièmement, qu'elles soient présentes ou imminentes et non pas à venir plus tard. Troisièmement, que la chose interdite en question ne soit pas pire que la nécessité impérieuse. Quatrièmement, qu'il n'y ait pas d'autre alternative que le recours à l'interdit. Cinquièmement, ne pas dépasser les limites de la nécessité. Sixièmement, que cet interdit n'engendre pas un préjudice équivalent à autrui. Et septièmement, que le recours à l'interdit en question permette de mettre un terme à ce cas de force majeure, à cette situation de nécessité impérieuse.
Quatrièmement, l'interdit dont il est obligatoire de s'écarter concerne ce qui est illicite. Quant à ce qui est seulement réprouvé, il est permis de l'accomplir. Mais il est meilleur de le délaisser que de l'accomplir.
Non, tout en se rappelant donc du point soulevé précédemment concernant l'attitude des pieux prédécesseurs de cette communauté dans ce qui relève du domaine des ordres émanant d'Allah tabaraka wa ta'ala ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans le domaine de l'interdit.
Cinquièmement, l'individu religieusement responsable doit accomplir ce qu'on lui ordonne en fonction de sa capacité. Allah ne charge pas une personne au-delà de ses capacités. S'il ne peut accomplir parfaitement cette chose, il l'accomplit à un degré moindre. Ainsi, s'il ne peut prier debout, il prie assis. Et s'il ne peut accomplir parfaitement une obligation, il en accomplit ce qu'il peut. S'il n'a pas suffisamment d'eau pour accomplir totalement ses ablutions, il fait ce qu'il peut des ablutions avec l'eau, puis il accomplit les ablutions sèches, et tayammum, pour le reste. Et s'il ne peut donner un sa' pour l'aumône de rupture du jeûne, mais uniquement une partie, il donne ce qu'il peut.
Naam. Dans ce passage-là, Cheikh Abd al-Muhsin, hafidhahullah ta'ala, a insisté sur un point très important et nous renvoie à une autre des grandes règles de la charia. Cette règle-là, c'est celle qui dit que la gêne entraîne la facilité. La gêne entraîne la facilité. Sachant que la religion, elle est elle-même tout entière facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, la religion est facilité. Et il a décrit la charia comme étant quelque chose de simplifié et de facilité. Et cela nous amène à attirer l'attention vers un point également très important, à savoir qu'il ne s'agit pas ici de systématiquement opter pour ce que l'on considère comme étant le plus simple et le plus facile. Mais en vérité, cette règle-là, à savoir la gêne entraîne la facilité, elle nous apprend que lorsque nous nous trouvons dans une situation réelle de gêne, nous nous devons de rechercher l'alternative proposée par la religion afin de pallier à cela, et afin de connaître donc la facilité offerte par la religion dans cette situation de gêne. Et parmi ceux qui illustrent cela, les exemples qui ont été donnés par le shir Abd al-Muhsin, hafidhahullah ta'ala. Il a dit, Allah ne charge pas une personne au-delà de ses capacités. S'il ne peut accomplir parfaitement cette chose, il l'accomplit à un degré moindre. Ainsi, s'il ne peut prier debout, il prie assis. Et s'il ne peut accomplir parfaitement une obligation, il en accomplit ce qu'il peut. S'il n'a pas suffisamment d'eau pour accomplir totalement ses ablutions, il fait ce qu'il peut des ablutions avec l'eau, Puis il accomplit les ablutions sèches, tayammum, pour le reste, comme nous l'avions vu dans Manhaj al-Salikin. Et s'il ne peut donner un sa' pour l'aumône de rupture du jeûne, mais uniquement une partie, il donne ce qu'il peut. Donc il ne s'agit pas ici de opter forcément de manière absolue, systématique, pour ce que l'on considère comme étant le plus simple. Car cela, c'est une porte ouverte à l'hérésie. Et chaque personne, elle vient, et lorsque elle prend connaissance d'une obligation religieuse, elle la délaisse sous prétexte que la religion n'est que facilité. Et ce n'est pas cela qui est voulu par la règle mentionnée par les ulama. Rahimahumullah, ils ont plutôt voulu dire par cette règle-là, à savoir la règle qui dit que la gêne engendre la facilité, que lorsque tu te trouves dans une situation de gêne, tu te dois de rechercher dans les textes religieux, en posant la question aux gens de science, quelle est l'alternative qui t'est offerte afin de pouvoir accomplir cette obligation-là. Non.
Sixième moment, concernant sa parole, car ce qui a mené les nations qui vous ont précédé à leur perte n'est autre que l'excès de questions inutiles et d'objections à leurs prophètes. Dans ce hadith, l'interdiction de poser trop de questions concerne ce qui, à cette époque, pouvait engendrer le décret d'une interdiction ou encore d'une obligation contraignante probablement impossible à réaliser, comme le pèlerinage tous les ans par exemple. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'interdiction concerne les questions recelant une contrainte, une exagération, ou pouvant nous amener à nous détourner de ce qui est plus important.
Naam. Concernant la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car ce qui a mené les nations qui vous ont précédé à leur perte n'est autre que l'excès, le surplus de questions inutiles et d'objections à leur prophète. Le shir donne d'expliquer ici, hafidhahullah ta'ala, ce qui est voulu par ses propos prophétiques, en expliquant cela à son époque, et également après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans ce hadith, l'interdiction de poser trop de questions concerne ce qui, à cette époque, c'est-à-dire à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de la législation, pouvait entraîner le décret d'une interdiction ou encore d'une obligation contraignante probablement impossible à réaliser, comme le pèlerinage tous les ans, par exemple. Et ici, il fait référence à ce qui a été mentionné dans le hadith rapporté par Muslim. Et nous retrouvons ce principe-là dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans surat al-Ma'ida, les versets 101 et 102, dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Ya ayyuhal ladhina amanu, la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'kum, wa in tas'alu anha, hina yunazzalu al-Qur'an tubda lakum, afallahu anha, wallahu ghafurun halim, qad sa'alaha qawmu min qablikum, thumma asbahu biha kafirin. » Ô vous qui avez la foi, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenterez. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées, alors qu'Allah ne vous tient pas rigueur concernant cela, et Allah est pardonneur et indulgent. Des gens avant vous avaient posé des questions pareilles, puis devinrent de leurs faits mécréants. Donc tu retrouves ici la concordance entre le verset de Surat al-Ma'ida que vous venez d'entendre et le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interdiction concerne les questions recelant une contrainte, une exagération, ou pouvant nous amener à nous détourner de ce qui est plus important. La distinction est faite entre le temps du prophète alayhi salatu wassalam et ce qui est de mise après sa mort sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que peu avant sa mort, La religion était parachevée. Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé peu de temps avant sa mort, alors qu'il était en train d'accomplir le pèlerinage. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion, vous avez comblé de mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Donc à partir de ce moment-là, na'am, la religion fut parachevée et ce n'était donc plus une période de législation. Donc ce qui était à craindre avant cela ne l'était plus par la suite. Cependant, l'interdiction et le blâme visant le fait de trop poser de questions inutiles et d'émettre des objections au prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours en vigueur, mais il concerne cette fois-ci les questions recelant une contrainte ou une exagération ou pouvant nous amener à nous détourner de ce qui est plus important. Et il faut savoir que le véritable savoir, la véritable science, ce n'est pas forcément de poser beaucoup de questions ou de s'imaginer des situations qui ne sont pas encore arrivées afin de poser la question les concernant pour en connaître le verdict, comme nous allons le voir à travers des propos d'Ibn Rajab que le Cheikh Abdel Mohsin a mentionné juste après. Bi-idhnillah.
Septièmement, Ibn Rajab a dit dans Jami' al-Ulum al-Hikam, à ce sujet, il y a plusieurs catégories.
Jami' al-Ulum al-Hikam, vous vous rappelez de ce livre ? Jami' al-Ulum al-Hikam. Il a quoi comme particularité ce livre ? Jami' al-Ulum al-Hikam. Naam ?
C'est l'explication qu'il en a fait des 40 hadiths.
C'est l'explication des 40 hadiths de Nawawi, faite par Ibn Rajab. Et c'est la meilleure des explications qui a été écrite par les ulama, rahimahumullah.
Ibn Rajab dit, à ce sujet, il y a plusieurs catégories de personnes. Certains adeptes des savants du hadith se sont privés d'approfondir leur connaissance de certaines questions religieuses.
Religieuse, ici il manque un G et un I. Il est marqué religieuse. C'est religieuse. Naam.
Certains adeptes des savants du hadith se sont privés d'approfondir leur connaissance de certaines questions religieuses au point où leur compréhension en science se sont limitées à ce qu'Allah a révélé à son messager, devenant ainsi une personne qui se transmet la science sans pour autant en être savant.
Ici, il y a un petit souci concernant la traduction. Le traducteur, afallahu an, a dit « Certains adeptes des savants du hadith se sont privés d'approfondir leur connaissance de certaines questions religieuses, au point où leur compréhension et science se sont limitées à ce qu'Allah a révélé à son messager, devenant ainsi une personne qui transmet la science sans pour autant en être savant. » Il faut savoir que, comme nous allons nous en rendre compte, Inch'Allah, Ibn Rajab, il est en train de critiquer ici ce genre de personnes-là. Or, le fait que la compréhension de l'individu et que sa science soit limitée à ce qu'Allah a révélé à son messager, ce n'est pas l'objet d'un blâme. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un si son savoir et sa compréhension se limitent à ce qu'Allah a révélé à son messager. Et ce n'est de toute façon pas ce qu'a voulu dire Ibn Rajab ici. Donc, il faudrait rajouter, donc je vous dicte donc la formulation, il n'y a que quelques modifications à faire. Certains adeptes des savants du hadith se sont privés d'approfondir leur connaissance de certaines questions religieuses au point où leur compréhension et science relative, donc c'est ici qu'il faut apporter une modification, relative aux délimitations de ce qu'Allah a révélé à son messager, furent limitées, c'est-à-dire restreintes, devenant ainsi une personne qui transmet la science sans pour autant en être savant. Donc on se rend compte qu'en vérité, Ibn Rajab a voulu ici évoquer le cas de certains adeptes des savants du hadith qui se sont contentés de mémoriser des textes, mais qui n'ont pas cherché à approfondir leur connaissance de la compréhension à avoir de ces textes-là. Et c'est ainsi que, bien qu'ils avaient un certain savoir du fait de leur mémorisation, eh bien leur compréhension et science relative aux délimitations de ce qu'Allah a révélé à son messager furent limitées, restreintes. Et ils sont ainsi devenus des personnes qui transmettaient la science sans pour autant en être savants, sans pour autant réellement comprendre ce qu'ils étaient en train de transmettre. Donc c'est là une première catégorie de personnes. Et la deuxième catégorie, donc c'est juste après, lorsque il dit à l'inverse. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre un petit trait pour séparer les deux.
À l'inverse, certains savants de l'école rationaliste ont axé leur réflexion sur la conception de cas correspondant à des situations inexistantes et auxquelles les gens n'ont pas été confrontés. Ils ont étendu le champ de ces réflexions au point de chercher à déterminer ce qui, dans les questions de jurisprudence...
Jurisprudence, on a à plusieurs reprises attiré l'attention vers le fait qu'il n'est pas correct d'utiliser ce terme et qu'il est plus judicieux de laisser le terme fiqh tel qu'il est.
Au point de chercher à déterminer ce qui, dans les questions de fiqh, faisait partie des us et coutumes. Ils se sont contraints à y répondre, alimentant débats et polémiques qui ont mené à la division des cœurs. Une division qui s'est pérennisée en raison des passions, des querelles...
Pérennisée, c'est-à-dire installée. Installée durablement.
Une division qui s'est pérennisée en raison des passions, des querelles, de l'inimitié et de la haine. Cela est souvent lié à la volonté de dominer, de s'élever, de se montrer et d'attirer le regard des gens. Cela a été blâmé par les grands savants éducateurs. Et la sunna en a montré l'infamie et l'interdiction.
Les grands savants éducateurs, ils visent par là « al-ulama al-rabbaniyoun ». « Al-ulama al-rabbaniyoun », comme l'a expliqué Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ce sont ceux qui enseignent à la communauté les bases de leur religion avant d'entamer avec eux les sujets plus complexes. Ce sont eux les savants éducateurs, al-ulama al-rabbaniyoun, qui ont blâmé donc ce genre de personnages qui, à l'inverse de la première catégorie, n'ont pas fourni d'efforts afin de mémoriser les textes et se sont concentrés sur certaines réflexions portées sur la conception de cas correspondant à des situations inexistantes et auxquelles les gens n'ont pas été confrontés. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'occuper de choses qui en vérité n'étaient pas utiles, ce qui a entraîné bon nombre de débats et polémiques et qui a mené à la division des cœurs, qu'Allah nous en préserve. Puis donc suite à cela, Ibn Rajab a fait mention de la troisième et dernière catégorie de personnes correspondant aux savants des adeptes du hadith.
Quant aux savants des adeptes du hadith qui le mettent en pratique, leur souci principal est de rechercher l'essence du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ce qu'il explique dans les sunans authentiques, les propos des compagnons et de ceux qui les ont parfaitement suivis. Également l'essence de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de ce qui est authentique et ce qui est faible, puis l'étude, la recherche de compréhension et la méditation sur ces sens. Puis, la connaissance des propos des compagnons et de ceux qui les ont suivis dans les différents types de sciences, comme l'exégèse, le hadith, les questions du licite et de l'illicite, les fondements de la religion, l'ascétisme, les exhortations et autres.
Naam, les fondements de la religion, le terme utilisé par Ibn Rajab, c'est les fondements de la sunna. Mais en vérité, cela mène à la même chose. Étant donné que, comme l'a dit l'imam al-Barbahari, et vous n'êtes pas sans connaître cette célèbre parole de cet imam, rahimahullah, sachez que la sunna c'est l'islam, et que l'islam c'est la sunna. Donc ici les fondements de la sunna ou les fondements de la religion Ça renvoie donc à la même chose.
C'est là la voix de l'imam Ahmed et de ceux qui l'ont suivi parmi les grands savants éducateurs du hadith. Et la connaissance de ces sciences est une occupation suffisante, plutôt que de se préoccuper des avis inventés qui ne sont d'aucune utilité et n'ont ni existence réelle, n'amènent que la polémique, les oppositions, les débats et la multitude des on-dit. L'imam Ahmed répétait souvent lorsqu'il était interrogé sur une question imaginaire qui ne correspondait à aucune réalité, « Laissez-nous avec ces questions innover. » Puis il dit, « Celui qui emprunte le chemin de la recherche de la science, comme nous l'avons mentionné, sera généralement capable de comprendre les réponses aux questions qui se présenteront concrètement, car elles correspondent à des principes fondamentaux que nous avons indiqués. Et ce chemin doit être emprunté derrière ces savants, ceux dont la droiture et la science font l'unanimité, comme Shafi'i, Ahmed, Ishaq, Abu Ubaid, et ceux qui ont emprunté leur voie. Celui qui prétend emprunter cette voie sans se conformer à leur chemin tombera dans des périls et dangers et agira selon des avis religieux qui permettent ce qui ne l'est pas. »
Et ouais, qui permettent ce qui ne l'est pas, ou qui permettent ce qui n'est pas permis, s'il y a un petit oubli. Qui permettent ce qui ne l'est pas, ou qui permettent ce qui n'est pas permis.
Comme il délaissera ce qui est obligatoire. Et ce qui permet d'y arriver est de viser la face d'Allah et de se rapprocher de lui, en connaissant ce qu'il a révélé à son messager, en empruntant sa voie, en la mettant en pratique et en y appelant les gens. Celui qui agit ainsi, Allah lui accordera le succès, la justesse, lui inspirera la droiture, lui enseignera ce qu'il ne savait pas, il sera parmi les savants loués dans le livre, dans sa parole, dont la traduction approximative est « Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah, et il sera parmi les savants ancrés dans la science. » Puis il dit « Pour résumer, celui qui se conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans ce hadith, délaisse ce qu'il a interdit et s'y consacre en dehors de toute autre chose, obtiendra le salut dans ce monde et l'au-delà. En revanche, quiconque emprunte le chemin inverse, se laisse aller à ses idées et à ce qu'il considère comme meilleur, se retrouvera dans des situations contre lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. À l'instar des gens du livre, qui ont péri en raison de leurs nombreuses questions et objections à leur prophète, sans se laisser conduire par leurs soins ni leur obéir. »
Naam, ici, dans ce passage, le Cheikh Abdel Mohsin a donc fait mention d'un long passage tiré du livre Jami' al-Ulum wal-Hikam d'Ibn Rajab al-Hanbani, rahimahullah ta'ala. Et on peut tirer plusieurs enseignements de ce passage très instructif. Premièrement, le fait que les gens, dans leur approche de l'apprentissage, sont de trois sortes. Ils se divisent en trois catégories, comme nous l'avons vu. Ceux qui se sont concentrés, premièrement, donc, sur la mémorisation des textes, en négligeant la compréhension de leur sens. Et devenant ainsi, comme l'a dit Ibn Rajab et comme vous l'avez entendu, des personnes qui transmettent la science sans pour autant en être savants. La deuxième catégorie correspond à ceux qui ont fourni des efforts de réflexion à propos de questions religieuses, au point d'aborder des situations inexistantes, en négligeant les textes. C'est-à-dire que ces deux premières catégories sont opposées. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui ont donné de l'importance aux textes, en les mémorisant, en distinguant de la sunna ce qui en est authentique de ce qui ne l'est pas. De même pour les propos des compagnons. Puis qui ont basé sur ce qui en était authentique, de même qu'ils ont basé ce que nous allons mentionner sur les versets coraniques, leurs croyances, paroles, actes et positions. Et c'est cela la science. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-ilmu, qala Allah, qala Rasuluhu, qala as-sahabatu, hum ulul al-irfani. » La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, et les compagnons ont dit, car ce sont eux les personnes douées de connaissances. Et il a également dit, dans un autre passage, « Al-ilmu, qala Allah, qala Rasuluhu, qala as-sahabatu, laysa khulfun fihi. » La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, et ce que ses compagnons ont dit sans diverger dans cela. faisant ainsi référence au consensus, al-ijma' des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a également dit dans son livre Al-Fawa'id, la première parole donc est dans Al-Nuniya, la seconde est dans I'lam al-Muwaqqi'in, et celle que vous allez entendre est tirée d'Al-Fawa'id, traduit en français sous le titre Les Méditations, d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. La plus haute des aspirations dans l'acquisition du savoir, c'est l'apprentissage du savoir issu du livre et de la sunna, et de comprendre ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam en ont réellement voulu, et connaître les délimitations de ce qui a été révélé. Donc la plus haute des aspirations dans l'acquisition du savoir, c'est l'apprentissage du savoir issu du livre et de la sunna, et de comprendre ce qu'Allah et son messager en ont réellement voulu, et cela bien sûr ne peut se faire qu'à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, et à leur tête les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et connaître les délimitations de ce qui a été révélé. Car à partir du moment que tu connais ces délimitations-là, eh bien tu ne vas pas outrepasser ces limites, et ainsi tu ne vas pas tomber dans l'exagération. De même que tu ne vas pas tomber dans l'autre extrême qui constituerait cette fois-ci du laxisme. La voie de cette quatrième, plutôt de cette troisième catégorie de personnes, c'est la voie des adeptes du hadith, et c'est la voie d'Ahmed ibn Hanbal, comme l'a dit Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Ahmed ibn Hanbal, qui n'est autre que l'imam des adeptes de la sunna. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Autre point, autre enseignement que nous pouvons tirer de ce passage des propos d'Ibn Rajab dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, le fait que s'occuper d'apprendre ce qui a été mentionné, à savoir le fait de chercher à apprendre le Qur'an, la sunna, à connaître les paroles des pieux prédécesseurs de la communauté, distinguer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, de la sunna et des paroles des pieux prédécesseurs, et suite à cela, chercher à comprendre ces textes-là, et baser sur cette compréhension-là, qui doit être conforme à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont voulu, la croyance, les actes, l'adoration, la manière de se comporter, les positions à adopter. Le fait de s'occuper d'apprendre cela constitue une occupation suffisante qui dispense de se poser des questions sur des situations qui n'existent pas, contrairement à la deuxième catégorie de personnes mentionnée par Ibn Rajab. Autre enseignement, le fait qu'emprunter cette méthodologie permet justement de savoir appréhender les situations nouvelles. Donc dis-toi que la deuxième catégorie de personnes, elle a cherché à savoir comment appréhender des situations qui ne se sont pas encore passées, et c'est ainsi qu'elles sont tombées dans l'erreur. Alors que celui qui va suivre la méthodologie des adeptes du hadith, et qui va assimiler les grandes lignes de cette religion, et qui va connaître cette religion-là à la lumière du Coran, de la Sunna et des paroles des pieux prédécesseurs, lorsqu'une situation nouvelle va se présenter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller puiser dans son savoir, qui est un savoir authentique. Et c'est ainsi qu'il va savoir comment réagir. Et s'il ne sait pas, il va avoir le réflexe du fait de son savoir, justement, de poser la question aux gens de science. Fas'alou ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamoun. Questionnez donc les gens du rappel si vous ne savez pas. Et il faut savoir que c'est cette science authentique-là qui te permet d'obtenir le salut et la guider. Rends-toi compte que lorsque Ad-Dajjal va venir, qu'Allah nous en préserve, il va y avoir un jeune médinois qui va se présenter à lui et qui va sortir de Médine et qui va aller à sa rencontre. Et qui va s'opposer à lui. Allah tabaraka wa ta'ala, il va donner au Dajjal le pouvoir de scinder ce jeune médinois en deux. Et de le couper en deux. Et ensuite, il va réunir donc ces deux parties. Et c'est alors qu'il va recouvrer la vie. Et là, Dajjal, donc, il va lui ordonner de croire en lui. Et ce jeune médinois, il va lui répondre, Wallahi, il dit par Allah, je n'ai fait qu'augmenter en mes créances te concernant. Car c'est contre toi que nous a averti le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc rends-toi compte ici, que ce jeune médinois, ce jeune croyant médinois, il s'est basé sur quoi? Pour savoir que c'était là en vérité, une fitna, une épreuve venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'en vérité, le Dajjal était réellement un imposteur. Il s'est basé sur quoi? Est-ce qu'il s'est basé sur des conceptions ou des approximations ou des grandes réflexions venant de lui-même? Ou est-ce que plutôt il s'est basé sur un savoir authentique de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? La réponse, tu la trouves dans justement la réponse qu'a donnée ce jeune médinois au Dajjal, en lui disant, c'est contre toi que nous a averti le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut accorder au savoir authentique basé sur le Coran, la Sunna, à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs, l'importance qu'il se doit. Et cela également, c'est-à-dire les propos de l'auteur, cet enseignement-là que l'on en a tiré, nous mène également à nous rendre compte de l'importance de connaître les fondements de la charia. Car à partir du moment que tu connais les fondements de la charia, les fondements de la religion, eh bien tu vas pouvoir renvoyer à ces fondements-là les questions que tu ne connais pas. Contrairement à la méthodologie adoptée par bon nombre de jeunes à notre époque, qui commencent leur apprentissage de manière inversée. Et cela est dû notamment au fait que l'accès à certains médias, l'accès à Internet, par exemple, est facilité. Et qu'en quelques clics, tu peux avoir accès à la réponse que tu veux, au détriment du fait d'apprendre petit à petit, en commençant par les bases de la religion, en commençant par les grandes règles de la religion, qui vont te mener petit à petit à la connaissance des sujets qui sont plus pointus et plus précis. Et malheureusement, donc, on constate que c'est une méthodologie inversée qui est adoptée par bon nombre de personnes. Et c'est ainsi que bon nombre de personnes, ceux qui sont touchés par cela, ils peuvent passer un certain temps à lire et à consulter des articles ou des documents relatifs à la science, mais qu'ils n'acquièrent pas la science qu'ils auraient dû acquérir, étant donné qu'ils n'ont pas abordé l'apprentissage de manière correcte, dans le bon ordre. Également, parmi les enseignements que l'on peut tirer, le fait que ce qui a été mentionné comme méthodologie des adeptes du hadith ne peut se faire que par la conformité à la voie des savants, étant donné qu'Ibn Rajab, comme vous avez pu l'entendre, a dit, et ce chemin doit être emprunté derrière ces savants, c'est-à-dire derrière les savants de cette voie-là. Ceux dont la droiture et la science font l'unanimité, comme Shafi'i, Ahmed, Ishaq, Abu Ubaid, et ceux qui ont emprunté leur voie. Celui qui prétend emprunter cette voie sans se conformer à leur chemin, tombera dans des périls et dangers, et agira selon des avis religieux qui permettent ce qui ne l'est pas, comme il délaissera ce qui est obligatoire. Et cela nous renvoie à une parole célèbre qui a été dite par les gens de science, notamment l'imam Ahmed ibn Hanbal, et c'est une recommandation très importante. Il disait: méfie-toi de tout avis dans lequel aucun imam ne t'aurait précédé. Méfie-toi de tout avis dans lequel aucun imam ne t'aurait précédé. Et tu trouves que ce discours-là, il est bien loin de ce qui est de mise actuellement chez bon nombre de personnes qui sont friands de choses marginales ou de choses insolites et qui sont à la recherche d'avis et de paroles insolites, marginaux, étant donné qu'ils recherchent par là à attirer l'attention des gens vers eux. Alors qu'en vérité, la science, c'est ce qui est connu. La science, comme le disaient certains salafs, c'est ce qui te provient de l'Orient et qui te provient de l'Occident, dans le sens où c'est quelque chose qui est connu. Et ce n'est pas quelque chose de marginal, ce n'est pas quelque chose d'insolite. Et méfie-toi de tout avis dans lequel aucun imam ne t'aurait précédé. Et garde à l'esprit une parole connue de certains pieux prédécesseurs qui disait: seule une personne marginale peut se présenter à toi avec ce qui est marginal. Il faut donc s'en méfier. Barakallahu fikum. Également, parmi les enseignements contenus dans ce passage d'Ibn Rajab, l'importance de la sincérité et de la conformité à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que cela vous rappelle forcément deux conditions très importantes qui constituent les conditions de l'acceptation des œuvres. Si tu veux que ton œuvre soit acceptée, il faut qu'elle soit exclusivement vouée à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'elle soit conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui te renvoie à la double attestation de foi, dans laquelle tu attestes que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et cela implique donc forcément que tu sois sincère vis-à-vis de lui, et que Mohammed est le messager d'Allah, et cela implique forcément que tu le suives et que tu sois en conformité avec ses commandements. En effet, Ibn Rajab a dit, ce qui permet d'arriver au fait de suivre correctement la voie qu'il a décrite précédemment, et de viser la face d'Allah, et de se rapprocher de lui, en connaissant ce qu'il a révélé à son messager, en empruntant sa voie, en la mettant en pratique, et en y appelant les gens. Également, parmi les enseignements que nous pouvons tirer des propos d'Ibn Rajab, les conséquences de ce qu'il a mentionné précédemment dans l'apprentissage. En effet, il a dit: celui qui agit ainsi, Allah lui accordera le succès, la justesse, lui inspirera la droiture, lui enseignera ce qu'il ne savait pas. Il sera parmi les savants loués dans le livre, dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent réellement Allah. Et il sera parmi les savants ancrés dans la science. Et également, parmi les enseignements à tirer des propos d'Ibn Rajab, les conséquences de la mise en application du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Huraira, et qui est l'objet du cours d'aujourd'hui. En effet, Ibn Rajab a dit, pour résumer, celui qui se conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans ce hadith, délaisse ce qu'il interdit et s'y consacre en dehors de toute autre chose, obtiendra le salut dans ce monde et l'au-delà. Il obtiendra le salut dans ce monde et dans l'au-delà. Et également, les conséquences du fait de déroger à cette voie-là, en revanche, quiconque emprunte le chemin inverse se laisse aller à ses idées et à ce qu'il considère comme meilleur se retrouvera dans des situations contre lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde, à l'instar des gens du livre, qui ont péri en raison de leurs nombreuses questions et objections à leur prophète, sans se laisser conduire par leurs soins ni leur obéir. Référence est faite ici à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car ce qui a mené les nations qui vous ont précédé à leur perte n'est autre que l'excès de questions inutiles et d'objections à leur prophète, qu'Allah nous en préserve. Et maintenant, donc, on aborde les enseignements du hadith dans lesquels le Cheikh Abdel Mohsin Hafidahullah a résumé les différents enseignements qu'il a pu aborder dans son commentaire, qu'Allah la récompense.
On retient donc parmi les enseignements du hadith, premièrement, l'obligation de délaisser tout ce qu'Allah et le messager d'Allah ont interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, l'obligation d'accomplir tout ce qu'Allah et son messager ont ordonné, sallallahu alayhi wa sallam.
Et donc on a vu que ce deuxième point est restreint et conditionné par la capacité.
Troisièmement, l'avertissement contre le fait de tomber dans ce qui a entraîné la perte des gens du livre.
Qu'est-ce qui a entraîné la perte des gens du livre? Qui c'est qui peut nous le rappeler? Qu'est-ce qui a entraîné la perte des gens du livre, Zakaria? L'excès de questions inutiles et d'objections au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam.
Cinquièmement, suffit à celui qui ne peut accomplir totalement un ordre.
T'as pas mentionné le quatrième, je crois.
Ah, non. Quatrièmement, on ne peut exiger de l'homme plus qu'il ne peut accomplir.
Étant donné que le prophète alayhi salatu wa salam a dit « وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » Et ce que je vous ordonne de faire, accomplissez-le autant que vous pouvez.
Cinquièmement, suffit à celui qui ne peut accomplir totalement un ordre d'en accomplir ce qu'il peut. Et sixièmement, s'en tenir concernant les questions à ce qui est nécessaire et délaisser ce qui relève de l'exagération et de la contrainte.
Et naam, qu'Allah nous facilite et nous aide, et on va s'en tenir à cela. Et le cours prochain, nous aborderons le dixième hadith, rapporté également par Abu Huraira. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Jazakumullahu
khairan.